41. La terre désolée. Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses forfaits. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est complue dans la gloire et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. Parce qu'elle se dit, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, jamais je ne verrai le deuil. À cause de cela, en un seul jour ses fléaux viendront, mort, deuil et famine, et elle sera jetée au feu. » Car il est fort, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Tous les rois de la terre qui se sont prostitués et qui se sont complus dans le luxe avec elle pleureront et se lamenteront à son sujet. Ils diront « Quel malheur ! Quel malheur ! La grande ville, Babylone, la ville forte, en une seule heure est venu ton jugement. » Les marchands de la terre qui se sont enrichis par la puissance de son luxe se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et mèneront deuil en disant « Quel malheur ! Quel malheur ! La grande ville vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Tels sont les jugements qui tombent sur Babylone le jour où la colère de Dieu la visite. Elle a mis le comble à son iniquité. Son temps est venu, elle est mûre pour la destruction. Lorsque la voix de Dieu met fin à la captivité de son peuple, ceux qui ont tout perdu dans le grand combat de la vie passent par un terrible réveil. Tant que durait le temps de grâce, les tromperies de Satan les aveuglaient, et ils justifiaient leur vie de péché. Les riches s'enorgueillissaient de leur supériorité par rapport à ceux qui étaient moins favorisés qu'eux. Mais c'est en transgressant la loi de Dieu qu'ils avaient obtenu leur richesse. Ils avaient négligé de nourrir les affamés, de vêtir ceux qui étaient nus, d'agir avec justice et d'aimer la miséricorde. Ils avaient tenté de s'exalter eux-mêmes et d'obtenir l'hommage de leurs semblables. Maintenant, les voilà dépouillés de tout ce qui faisait leur grandeur, dépourvus de tout et sans défense. Ils contemplent avec terreur la destruction des idoles qu'ils ont fait passer avant leur Créateur. Ils ont vendu leur âme pour les richesses et les plaisirs terrestres, et n'ont pas cherché à devenir riches pour Dieu. Le résultat est que leur vie se solde par un échec. Leur plaisir se transforme maintenant en fiel, leur trésor en corruption. Ce qu'ils ont amassé au cours de leur vie est balayé en un instant. Les riches se lamentent de la destruction de leur magnifique maison, de la dispersion de leur or et de leur argent. Mais leurs lamentations sont interrompues par la crainte de devoir périr eux-mêmes en même temps que leurs idoles. Les méchants sont remplis de regrets. Non à cause de la négligence coupable de leurs devoirs envers Dieu et envers leurs semblables, mais parce que c'est Dieu qui a remporté la victoire. Ils déplorent que le résultat soit ce qu'il est, mais ils ne se repentent pas de leur méchanceté. Ils ne reculeraient devant rien pour remporter la victoire s'ils le pouvaient. Les gens du monde voient ceux dont ils se sont moqués et qu'ils ont voulu exterminer, traverser sans dommage la peste, la tempête et les tremblements de terre. Celui qui est pour les transgresseurs de sa loi, un feu dévorant, met son peuple à l'abri, au secret de sa tente. Le prédicateur qui a sacrifié la vérité pour obtenir la faveur des hommes perçoit maintenant le caractère et l'influence de ses enseignements. Il découvre alors que l'œil du Dieu omniscient le suivait lorsqu'il montait en chair, lorsqu'il marchait dans la rue, lorsqu'il se mêlait aux hommes dans les différentes activités de la vie. Chaque émotion de son âme, chaque ligne qu'il a écrite, chaque parole qu'il a prononcée, chaque acte qui a amené les hommes à chercher refuge dans la fausseté a été une semence jetée. Et maintenant, en voyant les malheureuses âmes perdues qui l'entourent, il contemple la moisson qu'il a lui-même semée. Le Seigneur a dit « Il soigne à la légère la blessure de la belle, de mon peuple. Tout ira bien, disent-ils, et rien ne va. » Vous démoralisez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai pas attristé, et vous encouragez le méchant de telle sorte qu'il ne revienne pas de sa voie mauvaise, ce qui le ferait vivre. Quel malheur pour les bergers qui perdent et dispersent le troupeau que je fais paître. Moi, je vais m'occuper de vous à cause de vos agissements mauvais. Hurlez, bergers, criez, roulez-vous par terre, prince des troupeaux. Car les jours sont arrivés où vous allez être égorgés et dispersés. Plus de refuge pour les bergers, plus de lieux sûrs pour les princes des troupeaux. Les prédicateurs comme les gens du peuple se rendent compte qu'ils n'ont pas maintenu avec Dieu la relation qu'ils auraient dû. Ils se sont rebellés contre l'auteur de toute loi juste et droite. Mettre de côté les préceptes divins a donné naissance à des milliers de sources de maux, à la discorde, à la haine, à l'iniquité, jusqu'à ce que la terre devienne un vaste champ de bataille, un abîme de corruption. C'est ce que découvrent ceux qui ont rejeté la vérité et choisi de professer l'erreur. Aucun langage ne peut exprimer le désir ardent ressenti par ces êtres désobéissants et déloyaux pour ce qu'ils ont perdu pour toujours, la vie éternelle. Des hommes que le monde a adulés pour leur talent et leur éloquence voient maintenant ces choses sous leur véritable jour. Ils prennent conscience de ce qu'ils ont perdu par leur transgression, tombent aux pieds de ceux dont ils ont méprisé et raillé la fidélité, et reconnaissent que Dieu les a aimés. Les gens du peuple constatent qu'ils ont été trompés. Ils s'accusent mutuellement de s'être entraînés les uns les autres vers la destruction. Mais tous s'accordent pour placer sur les prédicateurs le blâme le plus amer. Ces pasteurs infidèles ont prophétisé des choses agréables. Ils ont amené leurs auditeurs à annuler la loi de Dieu et à persécuter ceux qui voulaient la garder. Maintenant, dans leur désespoir, ces faux docteurs confessent devant le monde leur œuvre de tromperie. Les foules sont furieuses. « Nous sommes perdus !» s'écrient-elles. « Et c'est vous la cause de notre perdition !» Et elles se retournent contre leurs faux bergers. C'est contre ceux qu'elles ont le plus admirés qu'elles prononcent les plus terribles malédictions. Les mains qui, autrefois, les couronnaient de lauriers se lèvent pour les détruire. Les épées destinées à mettre à mort les membres du peuple de Dieu servent maintenant à détruire leurs ennemis. Partout, on voit des conflits et des massacres. Un vacarme se répand jusqu'aux extrémités de la terre, car le Seigneur a un litige avec les nations. Il entre en jugement contre tous. Il livre les méchants à l'épée. Pendant 6000 ans, la grande controverse a fait rage entre le Christ et Satan. Le Fils de Dieu et ses messagers célestes ont été en conflit avec la puissance du malin, avertissant, éclairant et sauvant les enfants des hommes. Maintenant, tous ont pris leur décision. Les méchants se sont pleinement associés à Satan dans son combat contre Dieu. Le temps est venu pour Dieu de justifier l'autorité de sa loi foulée aux pieds. La controverse ne concerne plus seulement Satan, mais aussi les hommes. Le Seigneur a un litige avec les nations, il livre les méchants à l'épée. La marque de la délivrance a été placée sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. C'est maintenant que s'avance l'ange de la mort, représenté dans la vision d'Ézéchiel par des hommes tenant une arme de massacre à la main. L'ordre leur est donné : tuez, détruisez, vieillards, jeunes gens, jeunes filles, femmes et familles entières, mais laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Le prophète ajoute : « Ils commencèrent par les hommes, ces anciens qui étaient devant la maison. Cette œuvre de destruction commence parmi ceux qui avaient professé être les gardiens spirituels du peuple. Les fausses sentinelles sont les premières à tomber. Il n'y a de pitié pour personne. Personne n'est épargné. Hommes, femmes, jeunes filles, petits-enfants, tous périssent ensemble. Le Seigneur sort de son lieu afin de faire rendre des comptes aux habitants de la terre pour leurs fautes. La terre exposera son sang. Elle ne couvrira plus ses tués. Voici le fléau dont le Seigneur frappera tous les peuples qui auront dirigé leurs armées contre Jérusalem. La chair de chacun pourrira tandis qu'il sera encore debout. Ses yeux pourriront dans leurs orbites et sa langue pourrira dans sa bouche. En ce jour-là, ce sera chez eux la grande panique du Seigneur. Chacun empoignera l'autre, chacun lèvera la main sur l'autre. Dans le furieux conflit de leur violente passion et par l'effusion terrible du vin de la colère de Dieu versé sans mélange, les méchants habitants de la terre, prêtres, dirigeants, gens du peuple, riches et pauvres, grands et petits, tous tombent. Les victimes du Seigneur seront en ce jour-là d'une extrémité de la terre à l'autre. Ceux-là, on ne se lamentera pas sur eux, on ne les réunira pas, on ne les ensevelira pas. À l'avènement du Christ, les méchants sont effacés de la surface de la terre entière, détruits par le souffle de sa bouche, et réduits à rien par la manifestation de son avènement. Le Christ emmène son peuple vers la cité de Dieu, et la terre se trouve vidée de ses habitants. Le Seigneur vide la terre et la dépeuple, il en bouleverse la surface, il en disperse les habitants. La terre est complètement vidée, totalement pillée, c'est le Seigneur qui parle. La terre a été profanée par ses habitants, car ils passaient outre aux lois, altéraient les prescriptions, ils rompaient l'alliance perpétuelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, ses habitants doivent faire réparation, c'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés. Toute la terre ressemble à un désert désolé. Les ruines des villes et des villages, détruits par le tremblement de terre, les arbres déracinés, les rochers déchiquetés, rejetés par la mer ou arrachés à la terre elle-même, sont éparpillés sur toute sa surface, tandis que de vastes cavernes marquent les emplacements d'où les montagnes ont été arrachées de leurs fondations. Maintenant va se dérouler l'événement préfiguré par le dernier service solennel du jour des expiations. Lorsque le service dans le très sacré ou lieu très saint était achevé, et que les péchés d'Israël avaient été ôtés du sanctuaire par le sang du sacrifice pour le péché, le bouc pour Azazel était placé vivant devant le Seigneur. Et, en présence de l'assemblée, le souverain sacrificateur confessait sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes leurs transgressions, tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc. De même, lorsque l'œuvre de l'expiation sera terminée dans le sanctuaire céleste, alors, en présence de Dieu, des saints anges et de l'armée des rachetés, les péchés des membres du peuple de Dieu seront placés sur Satan. Il sera déclaré coupable de tout le mal qu'il leur a fait commettre. Et, comme le bouc pour Azazel était envoyé dans le désert, de même Satan sera relégué sur la terre désolée, devenu un désert lugubre et inhabité. L'apôtre Jean avait prédit le bannissement de Satan et l'état de chaos et de désolation auquel notre terre devait être réduite, et déclarait que cela devait durer pendant 1000 ans. Après nous avoir décrit les scènes du second avènement du Seigneur et de la destruction des méchants, sa prophétie continue ainsi. « Je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent d'autrefois, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, pour qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. » Que le terme « abîme » représente la terre dans son état de confusion et de ténèbres est évident lorsqu'on examine d'autres passages bibliques. Concernant l'état de la terre au commencement, le récit biblique nous dit que celle-ci était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. La prophétie nous apprend qu'elle retournera à cet état, au moins en partie. Jetant un regard vers l'avenir jusqu'au grand jour de Dieu, le prophète Jérémie déclarait « Je regarde la terre, c'est un chaos, elle est vide. Quant au ciel, sa lumière n'est plus. Je regarde les montagnes, elles tremblent, toutes les collines chancellent. Je regarde, l'homme n'est plus, et tous les oiseaux du ciel ont pris la fuite. Je regarde, le Carmel est un désert, et toutes ses villes sont démolies. » Ce sera la demeure de Satan et de ses mauvais anges pendant 1000 ans. Limité à la terre, il n'aura pas accès aux autres mondes pour tenter et harceler ceux qui ne sont jamais tombés. C'est dans ce sens qu'il est dit qu'il est « lié ». Il ne reste personne sur qui il puisse exercer son pouvoir. Il est totalement coupé de l'œuvre de tromperie et de ruine qui, pendant tant de siècles, a constitué son seul plaisir. Le prophète Ésaïe, jetant un regard vers l'avenir jusqu'au moment de la défaite de Satan, s'exclame : Comment, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu, toi qui domptais des nations. Tu te disais, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Mais on t'a fait descendre au séjour des morts, au plus profond du gouffre. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui agitait la terre, qui faisait trembler les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui rasait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Pendant 6000 ans, l'œuvre de rébellion de Satan agitait la terre, faisait trembler les royaumes, réduisait le monde en désert, rasait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers. Pendant 6000 ans, les membres du peuple de Dieu ont été captifs de sa prison, et il aurait voulu les maintenir captifs pour toujours. Mais le Christ a brisé leurs liens et libéré ses prisonniers. Les méchants eux-mêmes sont maintenant placés hors de portée du pouvoir de Satan, qui, seul avec ses mauvais anges, reste sur la terre pour constater les conséquences de la malédiction apportée par le péché. Tous les rois des nations, oui, tous, se sont couchés dans la gloire, chacun dans sa maison. Mais toi, tu as été jeté hors de la tombe comme un rameau abominable. 1. Tu n'es pas réuni à eux dans le tombeau, car tu as détruit ton pays, tu as tué ton peuple. Pendant 1000 ans, Satan errera çà et là sur la terre désolée, contemplant les conséquences de sa rébellion contre la loi de Dieu. Pendant ce temps, ses souffrances sont intenses. Depuis sa chute, sa vie d'activité incessante a banni de son esprit toute réflexion. Mais il est maintenant dépouillé de son pouvoir et forcé de contempler le rôle qu'il a joué depuis le début de sa rébellion contre le gouvernement céleste. Il attend maintenant, tremblant et terrorisé, le terrible sort qui lui est réservé. Il devra souffrir pour tout le mal qu'il a commis et être puni pour les péchés qu'il a fait commettre. La captivité de Satan sera, pour les membres du peuple de Dieu, un sujet de joie et de réjouissance. Le prophète Ésaïe a déclaré « Le jour où le Seigneur t'aura accordé le repos, après tes peines et tes agitations, et après le dur esclavage qui te fut imposé, alors tu prononceras ce poème contre le roi de Babylone, représentant Satan, et tu diras « Comment ? L'oppresseur n'est plus. Le Seigneur a brisé le bâton des méchants, le sceptre des dominateurs. » Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups incessants, celui qui, dans sa colère, dominait sur les nations et poursuivit sans ménagement. C'est pendant les 1000 ans compris entre la première et la seconde résurrection que se déroule le jugement des méchants. L'apôtre Paul décrit ce jugement comme un événement qui fait suite au second avènement du Christ. Ne portez donc aucun jugement avant le temps fixé, avant la venue du Seigneur qui mettra en lumière les secrets des ténèbres et qui rendra manifestes les décisions des cœurs. Le prophète Daniel déclare que, lorsqu'arrive le vieillard, représentant Dieu, il vient rendre justice au sein du Très-Haut. C'est pendant cette période que règnent ceux dont le Christ a fait un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. L'apôtre Jean, dans ses visions de l'Apocalypse, nous dit « Je vis des trônes. À ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. » C'est à ce moment que, comme l'a prédit l'apôtre Paul, ce sont les saints qui jugeront le monde. En association avec le Christ, ils jugeront les méchants en comparant leurs actes avec le Code, la Bible, et décideront chaque cas selon ce que chacun aura pratiqué avec son corps. Puis, le châtiment que devra subir chacun des méchants sera assigné, à chacun selon ses œuvres, et enregistré devant son nom dans le livre de mort. Le Christ et les membres de son peuple jugeront aussi Satan et ses mauvais anges. L'apôtre Paul nous dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges ?» Et Jude déclare « Les anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang, mais qui avaient quitté leur propre demeure, ils les gardent dans des liens éternels, au fond des ténèbres, en vue du jugement du grand jour. À l'expiration des 1000 ans, aura lieu la seconde résurrection. C'est alors que les méchants ressusciteront des morts et paraîtront devant Dieu pour recevoir l'exécution du jugement. C'est ainsi que l'apôtre Jean, après avoir décrit la résurrection des justes, nous dit « Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. » Et Ésaïe déclare, au sujet des méchants, « On les réunira comme des prisonniers dans un cachot, ils seront enfermés dans une forteresse, et après un grand nombre de jours, ils rendront des comptes. »